France Culture.
Talmudique. Si sécularisées qu'elles soient, nos sociétés occidentales restent imprégnées de 20 siècles de christianisme et en particulier de l'idée que l'amour ne nous veut et ne nous fait que du bien. Cependant, si l'amour peut engendrer le bien et le bonheur, il peut aussi engendrer des pathologies terribles, car comme le montre si bien l'actualité et des pans entiers de la littérature et du texte biblique, l'amour peut mentir, se mentir et nuire très profondément. Il existe des ambiguïtés et des perversions potentielles de l'amour, et c'est à ces dangers de l'amour non accompagné d'une éthique de l'altérité, non bordé par la justice et la justesse de la loi, que nous invite à réfléchir la théologienne Paul Zelitsch et le philosophe Jean-François Boutor dans un livre remarquable intitulé « Aime et ne fais pas ce que tu veux » paru aux éditions Le Comte d'Authieret. Paul Zelitsch, Jean-François Boutor, bonjour.
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 Paul Zelitsch, vous êtes théologienne et présidente de la Conférence catholique des baptisés francophones, la CCBF. Jean-François Boutor, vous êtes philosophe, spécialiste de la démocratie, journaliste et essayiste, collaborateur de la revue Esprit et éditorialiste à Ouest-France. Vous êtes tous les deux cofondateurs et animateurs de l'atelier de lecture biblique dans lequel vous relisez les textes bibliques à partir de l'hébreu et vous avez été amené, entre autres, à vous confronter à cette question essentielle des dangers de l'amour et à comprendre comment l'amour sans loi et menacé de folie, c'est votre expression. Quels sont les constats, dans vos lectures et vos pratiques respectives, qui vous ont amené à réfléchir et étudier ces questions et à écrire ce livre qui invite à repenser le slogan « Dieu est amour » et à prendre le contre-pied de la célèbre phrase de saint Augustin « Aime et fais ce que tu veux » Jean-François Boutor.
Le point de départ, c'est le fait d'avoir souvent entendu, mais très très souvent, quand il était question d'agression sexuelle, de viol subi par des enfants ou des adultes d'ailleurs, ou de violence passionnelle, que tout cela n'avait rien à voir avec l'amour. Et nous sommes allés regarder ce que disent la littérature, les textes antiques. Et alors là, si vous lisez Médée, l'amour passionnel débouche sur le meurtre. Si vous lisez Shakespeare, Othello, la jalousie, c'est un amour fou, débouche là aussi sur le meurtre, sur la perversion. Si vous lisez ce que raconte Ango de ce qu'elle a vécu avec son père, elle ne cesse de dire que son père était persuadé qu'il l'aimait. Et puis, nous avons rencontré des gens qui se sont rendus coupables de ça et qui le reconnaissaient et qui disaient très souvent, presque toujours, qu'ils avaient été poussés par l'amour. Donc, la question se pose de savoir, puisque la littérature nous dit ça, puisque les coupables le disent, et c'est pas toujours comme une excuse, il faut bien se poser la question de qu'est-ce qu'il y en est réellement de l'amour. Et donc, l'amour divin, l'amour idéalisé, c'est peut-être un piège. C'est ça qu'on a voulu élucider.
En travaillant, nous nous sommes rendus compte, parce qu'il y a un parcours littéraire dans notre livre, nous traversons différentes œuvres, nous parlons aussi de ce qui a trait aux critères que pose le monde grec, par exemple, et qui sont extrêmement intéressants. Et nous nous sommes aperçus qu'il y a une absence, d'une certaine manière, une absence de culture, une absence de connaissance de ces textes qui ont formé des générations, comme un oubli qui ne peut qu'alimenter justement ce désordre. Et puis il y a une autre, par exemple, le désordre qui consiste à ne pas penser l'autre comme étant différent de soi, à ne pas non seulement penser mais mettre en œuvre ce que ça exige, c'est-à-dire cet écart indispensable entre soi et l'autre. Et cet écart n'est pas du tout du vide, au contraire, mais une manière de permettre à chacun, je dirais, d'advenir à ce qu'il est. C'est cette manière aussi de ne pas mettre la main sur l'autre. Et il y a cette autre question qui nous a aussi habité, mais elle ne peut pas ne pas habiter quelqu'un qui travaille justement les textes bibliques. C'est la question qui traverse notamment la religion chrétienne, la foi chrétienne. C'est cette manière d'accoler l'idée que, enfin, Dieu est l'amour. Et dans les textes, on voit que cet écart est tout à fait présent et cet accolement n'est pas là en réalité.
J'ajouterais une chose, c'est que ça a aussi une dimension politique.
Oui.
Parce que la réalisation du bien, l'idéal de la réalisation du bien, c'est une volonté d'aimer d'une certaine manière. Eh bien, on a vu dans de multiples cas les totalitarismes. Et ce qui m'a aussi frappé, c'est que si vous demandiez aux gens qui avaient cru au communisme, et en particulier au communisme soviétique, ils étaient persuadés que, bon, on a raté, mais c'était quand même pour le bien. L'explication, c'est toujours la même. C'est toujours l'amour, c'est le moteur. Ah oui, mais si l'amour est le moteur et qu'il conduit à ça, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui s'est passé.
Alors, ces pathologies de l'amour, alors ça va dans le sens de ce que l'on peut rajouter, ne sont pas toutes sexuelles, mais engagent des formes de toute puissance et de confusion, dont l'inceste est peut-être le paradigme principal, Jean-François Boutor.
Oui, parce que le mot qui désigne l'amour le plus cher, le plus fidèle, le plus loyal, recède. D'une certaine manière, on pourrait dire que c'est l'amour dont Dieu serait l'essence même, d'une certaine manière. Eh bien, quand on lit le livre du Lévitique, on le trouve dans la liste des interdits sexuels pour désigner l'inceste entre le frère et la sœur. Et donc, il y a une grande ambiguïté entre cet amour si bon, cet amour si fidèle, et puis cet abus total qui est celui de l'inceste entre le frère et la sœur. Et donc, c'est ça la question, c'est que l'inceste, c'est d'ailleurs intéressant que dans le Lévitique, on a deux listes d'interdits avant le fameux commandement d'aimer son prochain et d'aimer Dieu. C'est d'une part des interdits sexuels qui portent tous sur des formes d'inceste, pratiquement, et puis des questions qui touchent à la justice. Et donc, en fait, la question que pose la Torah à ce moment-là, c'est il y a des formes de toute puissance et il y a des formes d'injustice qui sont des perversions de l'amour.
Et pour avoir accès justement à ce type de lecture qui permet de rendre justice au texte hébreu, nous avons fait justement ce travail de traduction au plus près du plus près de l'hébreu en français parce que toutes ces finesses-là disparaissent des traductions auxquelles la majorité des gens ont accès. Et on arrive à un texte qui, quelque part, non seulement se coupe de son origine, mais plus fort encore, se coupe de son sens et se coupe de sa fonction. Parce que sa fonction, c'est d'inciter ceux qui le lisent à toujours se poser de nouvelles questions, à toujours retravailler ce qui, au fond, touche à ce qu'il y a de plus profond, c'est-à-dire comment advenir à son humanité dans un monde donné, et sachant que cette tâche est toujours à renouveler de génération en génération. Et ça, c'est absolument, je trouve, magnifique.
Alors, merci pour cet enthousiasme de lectrice. Cette question de l'amour, qui est une question universelle, les références littéraires en témoignent largement, c'est ce que vous venez de signaler. Mais c'est en suivant le récit biblique que vous choisissez particulièrement de l'interroger, comme vous venez de le dire. Or, cette interrogation passe par des lois de lecture et d'interprétation. Les lois sont nécessaires à l'exégèse, comme elles sont nécessaires à l'amour et à la vie en général. Or, l'une des lois de lecture, la première sans doute, c'est celle que nous appelons la règle de la première occurrence.
Oui.
Que signifie-t-elle et que découvre-t-on quand on la met en œuvre en ce qui concerne la question du verbe aimer et la question de l'amour ?
Nous sommes mis à la chasse du mot amour, dans notamment le texte de Genèse. Et on s'est aperçu que ce mot n'apparaît qu'au chapitre 22, ce qui est quand même extraordinaire.
Et au chapitre extraordinaire 20... pourquoi ?
Extraordinaire parce que lorsqu'on lit le texte dès le départ, donc est un texte de où il y a de la création, où il y a du bon, où il y a du bien, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait aussi de l'amour. Or, il n'y en a pas.
Vous voulez dire que c'est tardif.
Voilà,
oui.
Il n'en est pas question. Mm-hmm. Donc, il y a autre chose de plus important, peut-être, probablement, avant. Quelque chose d'autre à penser. Et ce qui est à penser avant, c'est précisément ce qui sous-tend, d'une certaine manière, la loi et la séparation. Bon, donc je reviens à cette histoire d'amour. En fait, la première fois qu'on entend ce mot, c'est lorsqu'il est adressé, donc, une parole est adressée à Abraham, au chapitre 22, où on lui dit, au moment où il part avec son fils vers la montagne, on lui dit « Prends le fils que tu aimes ». Et la seconde occurrence où ce mot apparaît, c'est lorsque Isaac voit pour la première fois Rebecca et on nous dit qu'il l'aime. Et là, je passe la parole à mon ami Jean-François.
Oui, ce qui est intéressant, c'est que précisément, cette première occurrence nous fait tout de suite poser une question, parce que le personnage qui parle et qui s'adresse à Abraham, ou plutôt que Abraham entend, ce qui était un peu différent d'ailleurs, qu'est-ce qu'il veut lui dire? Parce que rien n'a permis de savoir quelle était la relation d'Abraham à son fils Isaac. Rien. Il n'y a pas eu un mot. Alors, s'agit-il pour celui qui parle de dire « oui, c'est vraiment celui que tu aimes » ou « est-ce que tu l'aimes vraiment ?» On ne sait pas.
Celui que tu dis que tu aimes.
Celui que tu dis que tu aimes ou celui que tu crois aimer.
Pour préciser que les auditeurs ne soient pas perdus, le chapitre 22, c'est le célèbre chapitre du non-sacrifice d'Isaac. Le moment où Dieu va dire à Abraham « prends ton fils et monte-le en élévation ». Abraham va croire qu'il s'agit de faire un sacrifice. Et c'est là que Abraham dit « mais quel fils ? J'en ai deux. J'ai Isaac et j'ai Ismaël. » Alors, il va dire « mais celui que tu aimes ». Mais il va répondre, dit Rashi, « mais j'aime les deux ». Alors, à ce moment-là, le texte a besoin de préciser Isaac. Et c'est dans ce contexte du non-sacrifice d'Isaac que le mot « aimer » apparaît. Alors, je vous redonne la parole.
Donc, il apparaît dans une forme d'ambiguïté, donc. Ambiguïté, d'abord, on ne sait pas ce qu'il veut dire, puisque c'est la première fois qu'il apparaît. On a eu aucune explication pour le décoder. Alors, on peut s'amuser à le décoder avec les lettres qu'il compose, par exemple. Et on s'aperçoit que la première lettre, c'est le Aleph. Donc, c'est le 1, mais le 1 infini. Que la deuxième, c'est le He. C'est le souffle de l'esprit, d'une certaine manière. Le souffle qui est insufflé dans le nom d'Abraham, d'ailleurs. Mais comme dans la matérialité de l'être humain façonné avec de la glaise au chapitre 2 de la Genèse. Et puis, c'est le bête, c'est la lettre qui est à la fois la maison, la porte ouverte, mais qui est aussi la première lettre de la Torah qui est ouverte vers la suite de la lecture. Donc, c'est à suivre. Il va falloir voir ce qui se passe.
Mais c'est aussi surtout le fait que la lettre bête, c'est le nombre 2. C'est-à-dire que même s'il y a de l'amour, il faut toujours qu'il y ait du deux. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de fusion et de confusion. C'est-à-dire, même s'il y avait cette idée qu'on a envie de faire de l'un, avec ce souffle partagé, il faut qu'il reste cette dimension de l'altérité et du deux et de la transcendance et de l'écart dont la loi est peut-être justement le secret.
Voilà. Paul Zelitch. Sur la question du deux, cette affaire, elle est soulignée un peu plus tard dans le jardin, où on parle de l'arbre du fruit, du connaître bien et du connaître mal. Et en étant très attentif au texte, on comprend qu'il est impossible, inimaginable, de faire avancer l'histoire, de faire advenir de l'humain, sans qu'il y ait constamment un principe de discernement. Et ce principe de discernement, il est posé juste avant, quand Dieu... Elohim dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul ». Et tout le texte qu'on va lire, tous les rapports homme-femme vont quelque part dire ça toujours. « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'est pas bon que la femme soit seule ».
On est dans le chapitre 22, c'est l'histoire d'un père qui, au nom de l'amour pour Dieu et pour son fils, est aussi prêt à tuer. Ce que fait le texte, c'est qu'il met en scène la violence au nom de l'amour. Et nous sommes donc au cœur du paradigme que vous dénoncez. Et pour en comprendre les enjeux, vous vous arrêtez sur une particularité de ce texte qui concerne le nom de Dieu, qui oriente toute la réflexion. De quoi s'agit-il, Jean-François Boutor ?
C'est que, en fait, la personne, la voix que entend Abraham à ce moment-là, nous dit le texte, c'est non pas la voix de Elohim, mais la voix de Ah Elohim.
Elohim traduisait.
Alors, Ah Elohim, Ah, c'est en fait l'article défini. Or, Elohim, c'est un singulier pluriel, c'est-à-dire qu'il est à la fois un, mais toutes ses sous de multiples manifestations, qui fait qu'on ne peut pas le cerner. Alors, si brusquement vous mettez un article défini, ça veut dire, ça y est, vous avez défini Dieu. Et si vous avez défini Dieu, bah vous avez une idole, en réalité. Et donc, ce que le texte nous dit discrètement, à travers cette expression « à Elohim », qui, à d'autres endroits précédemment, signifie exactement la même chose, c'est que Abraham, à ce moment-là, il est à l'écoute de l'idole. Et le fils qu'il aime, il est prêt à le sacrifier à l'idole qu'il aime, ou qu'il croit aimer. On voit encore comment fonctionne cette possible perversion de l'amour, qui fait qu'il y a derrière... la volonté d'aimer, il y a le danger d'une toute-puissance qui est la toute-puissance sur l'objet aimé et la toute-puissance en direction de l'idole. Donc c'est ça qui...
peut être une idéologie.
Oui, ou une idéologie.
Alors la question qui se pose est très claire par rapport à ça, justement. Donc c'est très beau. On comprend que Abraham est traversé par une folie parce qu'il est traversé par un souffle d'idolâtrie. La question, c'est comment Abraham va se débarrasser de ce dieu idole en se débarrassant de l'article que vous venez de dire et en redonnant tout son sens au nom Elohim, ce singulier pluriel, comme vous l'appelez, qui ouvre les portes de l'infini. Mais cela se passe dans le texte, Paul Zelitch, par la question, les questions que pose le Fils. Vous parlez de puissance libératrice de la question. De quoi s'agit-il dans le récit, Paul Zelitch ?
Eh bien, la question de du Fils à son Père, pendant qu'ils cheminent tous les deux, elle paraît toute anodine, c'est « Et où l'agneau vers la montée ? Où est cet agneau ?» Les auteurs sont assez extraordinaires parce qu'avec une très belle économie de mots, ils pointent ce Fils qui, au fond, est du côté du bon sens, entre guillemets. Et la question qu'il pose à son Père oblige son Père, d'une certaine manière, à se déplacer. Les déplacements qui est manifesté dans le texte par cette réponse, Elohim verra vers lui l'agneau. Donc, ce n'est plus lui qui va déterminer la chose, ce n'est plus Abraham, ce sera Elohim. Mais pour l'instant, on ne sait pas si Abraham pense qu'Elohim dira qu'il faudra le faire ou pas.
Mais on peut noter que, précisément, c'est pas dans la réponse d'Abraham, c'est pas « Ha Elohim
oui. !»
Brusquement, l'article défini a disparu. Et donc, en fait, Abraham comprend que l'idole, derrière l'idole, il y a quelqu'un qui lui échappe et quelqu'un qui met en jeu l'avenir. Et ça, c'est fondamental. Or, ce qui est tout à fait étonnant dans ce texte, c'est que depuis le début du récit, il n'y a pas eu un mot d'échangé entre le père et le fils. Il y a cette parole très difficile à comprendre, qui est souvent très très mal traduite, donc du fameux « prends ton fils et emmène-le pour une montée », que la plupart des traductions chrétiennes traduisent « emmène-le pour un holocauste ou pour un sacrifice », faisant eux-mêmes le même choix que idolâtre, si j'ose dire, que le Abraham du texte. Et puis, c'est un grand silence, cette montée, comme si Abraham était enfermé dans cette vision. Et il faut la liberté du fils qui, lui, est allégé de tout ce qui a précédé, parce qu'il est jeune, il a pas encore tout vécu, il n'a pas tout le poids de l'histoire sur le dos. Dans cette liberté, il peut poser une question qui brusquement déchire d'une part le silence, mais déchire aussi la totalité du Ha Elohim pour rouvrir sur l'infini. Et de ce point de vue-là, c'est très important, le Fils libère le Père.
Dans ce texte, il y a un objet qui est important, le couteau, puisque on va avoir un couteau qui va se transformer dans sa fonction, non plus le couteau pour tuer, mais pour couper le lien, pour séparer, pour dépasser, une façon d'introduire le rôle de la loi comme loi de la coupure et de l'écart. Paul Zelitch.
Alors ce couteau, effectivement, c'est l'objet symbolique par excellence. Hein. À la fois, il met de la séparation entre un père et son fils, entre des générations. Il pose aussi quelque part, au fond, l'interdit de tuer d'une certaine manière, parce que c'est de ça aussi dont il s'agit, et on passe un peu vite là-dessus parce qu'on n'a pas le temps, mais c'est absolument énorme. Et il y a un rapport entre cet objet du couteau et effectivement toute la question qui est liée entre la loi et la séparation, qui est le travail constant du texte depuis le début. Et il se trouve que la loi occupe cette place-là. La loi, c'est ce qui va permettre à chacun, dans justement cette fonction de couper, je dirais d'être à sa juste place en termes d'une place à laquelle on rend justice, une juste place. Et c'est essentiel quand on pense l'articulation entre la loi et l'amour, et notamment les dysfonctionnements qui sont liés à l'amour quand il n'y a pas de loi.
Game. It's easy.
Beatles, All You Need Is Love, une chanson planétaire de 1967, où je vous cite, l'on voit Paul VI et les hippies se rejoindre, tandis que Freud et Thérèse Davila sont plus circonspects sur les bienfaits de l'amour. Commençons par Paul VI et Jean-Paul II, Paul Zelitsch.
Paul VI fait un grand discours à l'ONU, dans lequel il dit en deux mots, il reprend d'ailleurs des choses également dans son homélie du 24 décembre, ça se passe en 1965 au siège des Nations Unies. Je vais quand même vous lire la citation parce qu'elle a quand même un certain intérêt. « Jamais plus la guerre, jamais plus la guerre. C'est la paix qui doit guider le destin des peuples et de l'humanité. » Et il conclut, en un mot, l'édifice de la civilisation moderne doit se construire sur des principes spirituels, les seuls capables non seulement de le soutenir, mais aussi de l'éclairer et de l'animer. Et il ajoute, ces principes de sagesse supérieure ne peuvent reposer que sur la foi en Dieu. Alors, il ne pose pas immédiatement l'amour ici comme critère absolu, mais un petit peu plus tard, le 24 décembre, dans son homélie pour l'année sainte, il va assez loin en disant « La sagesse de l'amour fraternel qui a caractérisé le cheminement historique de l'Église en s'épanouissant en vertus et en œuvres, qui sont à juste titre qualifiées de chrétiennes, explosera dans une nouvelle fécondité, dans un bonheur triomphant, dans une vie sociale régénératrice. » Et il annonce que la civilisation de l'amour l'emportera sur la fièvre des luttes sociales implacable et donnera au monde la transfiguration tant attendue de l'humanité finalement chrétienne. Alors, en entendant ça, on comprend que d'abord, ça n'est pas arrivé. Ça, c'est déjà la première des choses. Et ce n'est pas la moindre. Et on comprend aussi à quel, je dirais, en quelque sorte, il est le précurseur, d'une certaine manière, de quelque chose qui traverse l'époque et qui annonce, en gros, les années 68 avec les grands rassemblements de jeunes, enfin, le monde hippie où tout le monde s'aime, le monde des bisous universels, et qui, en fait, s'est avéré être un espace de la confusion la plus grande, en réalité.
Et Jean-Paul II reprendra la même chose en opposant la civilisation de l'amour et la culture de mort. Et donc, on fait de l'amour, là encore, la clé ultime, au fond, du destin de l'humanité. Et alors, dans la chanson des Beatles, il y a quand même, si on écoute, ne serait-ce que le premier vers, il n'y a rien que tu puisses faire qui ne puisse être fait. Alors, ça peut s'entendre en disant, tout est possible. Mais tout est possible, on n'est pas très loin aussi de la toute-puissance. Et donc, cet amour qui peut tout, qui règle tout, on va très facilement être aveugle sur ces débordements. Or, vous avez évoqué Freud. Freud, il dit la chose suivante, il dit « L'amoureux tend à confondre toi avec moi et à agir comme s'il en était ainsi. » Donc, à faire de l'autre un pur objet. Et si on va jusqu'à Thérèse Davila, puisque vous l'avez cité, Thérèse, dont je rappelle que son père était issu d'une famille juive, et c'est pas tout à fait anodin. Elle écrit ça dans son « Chemin de la perfection ». Si le commandement de la charité était observé dans le monde comme il doit l'être, il serait, à mon avis, d'un secours puissant pour observer les autres. Mais, par défaut ou par excès, on n'arrive jamais à accomplir ce précepte dans toute sa perfection. À première vue, l'excès ne semble pas devoir être mauvais parmi nous. Et cependant, il engendre tant de maux et tant d'imperfections que personne, à mon avis, ne le croira s'il n'en a été témoin lui-même. Le démon, dit-elle, tend par là toutes sortes de pièges que les consciences peu exigeantes dans leur façon de servir Dieu perçoivent mal, les prenant même pour des actes de vertu. Donc voilà la précaution très importante de Thérèse Davila.
C'est-à-dire que, si je vous comprends bien, ce discours de Paul VI et puis poursuivi par des réflexions de Jean-Paul II, par exemple, sur cette civilisation de l'amour, elle est à la fois généreuse, parce que c'est formidable qu'il y ait une civilisation de l'amour contre une civilisation de la mort, mais il y a un danger dans la mesure où cela n'inclut pas les excès de cet amour et ses dangers, parce que ça n'implique pas la question de la loi. Et là, on est au cœur de l'évolution du christianisme depuis le début, qui pense une civilisation de l'amour contre une civilisation de la loi qui aurait été du côté du judaïsme. Et donc, on a une sorte d'oubli de la loi. Mais comme vous le dites très bien, l'amour sans la loi est quelque chose qui amène à la folie. Et donc la question, et c'est pour ça que votre texte, je pense, est important et remarquable, comment réintroduire de la loi et quelle est la fonction de cette loi au sein de l'amour ?
La loi, pour faire court, c'est l'irruption de l'autre dans la question éthique. La loi, c'est de l'autre qui est avant nous, puisque au fond, elle est héritée de ceux qui l'ont déjà formulée, qui l'ont interprétée, qui l'ont transformée, qui l'ont ajustée. Et puis, elle est devant nous parce qu'elle désigne cet autre qu'il faut respecter et dont le bonheur pour soi et pour lui ne peut passer que par le respect de son absolue liberté et non pas par l'absorption, la dévoration dont on avait parlé tout à l'heure. Donc la loi, c'est un principe d'altérité là où il y aurait un danger de confusion. Et moi j'aime beaucoup, et on termine le livre là-dessus, cette parole du Gaon de Vilna que nous avons trouvé rapporté par tout seigneur, tout honneur, Stéphane Moses, qui dit que au fond, la loi, c'est le don que Dieu fait à l'amour pour qu'il puisse vivre. Parce que c'est lui qui permet à l'amour de s'ajuster. Parce que la question, c'est que l'amour puisse trouver, non pas qu'il disparaisse, il ne s'agit pas de se priver de l'amour, mais il s'agit de trouver son ajustement, son harmonie.
Je compléterai peut-être en disant qu'au fond, la loi, c'est ce qui pose la possibilité d'un avenir.
Dans votre livre, Jean-François Boutor, Paul Zelitch, vous abordez une question qui me semble très importante. À partir de ces dérives de l'amour et de ces transgressions, si on peut dire, c'est la question du pardon. Vous insistez sur le fait que le pardon ne peut pas se substituer à la justice. Qu'apporte le pardon, d'une part, et qu'apporte la justice par-delà le pardon ?
La justice, c'est ce qui donne à la fois à la victime et au coupable, quelque part les restitue à leur place, les met face l'un aux actes posés et aux actes subis, et les place dans un cadre social. La justice n'est pas réparatrice au sens où on l'entend ordinairement. C'est une forme d'objectivation des faits. Et ça, c'est essentiel. Maintenant, le pardon relève d'un tout autre champ. Juste entre les deux, on peut dire que une fois qu'une sentence elle est émise, et si c'est une condamnation, la condamnation purgée, la personne qui a été condamnée réintègre la société et a toute la possibilité de vivre une nouvelle vie d'une certaine manière. Le pardon, lui, arrive, je dirais, bien après, et effectivement, il peut être demandé, ne pas être demandé, accordé, pas accordé. Mais il faut quand même imaginer qu'il y a, comme le dit d'ailleurs Yankelevitch et comme le dit aussi Levinas, on doit accepter qu'il y a de l'impardonnable, que cet impardonnable est, je dirais, est d'autant plus impardonnable qu'il pose des actes qui ne sont pas réparables en réalité. Quand vous avez tué quelqu'un, mais il est mort. Quand quelqu'un a été violé, toute sa vie, y compris même dans ses relations avec ses générations, cet acte sera posé dans cette lignée. Donc on ne peut pas avoir le rapport un peu, je dirais, chrétien avec le pardon, qui est un rapport un peu moralisateur, qui serait censé tout dénouer. Ça, c'est du fantasme pur, hein.
Ce qui me frappe, c'est que souvent le pardon est pris comme, au fond, le sommet de l'amour.
Ouais.
C'est la victime qui dépasse le mal qui lui a été fait et qui accorde le pardon à l'agresseur. Pourquoi pas ? Je ne peux pas interdire à une victime de pardonner. Mais le problème, c'est que ça a été souvent instrumentalisé pour, au fond, faire taire les victimes en leur disant bah, « tu pardonnes, ça va aller mieux ». Je l'ai entendu moi-même, à mon encontre. Donc je sais de quoi il retourne. Et ce faisant, on fait l'impasse sur la nécessité de nommer le crime, l'agression, le mal qui a été commis.
Et, c'est-à-dire de... On omet la justice.
On omet la justice, c'est le cas de le dire. Sans nommer le crime, on omet la justice, exactement. Et donc, c'est un vrai problème. Et ça a été très, très utilisé, notamment dans le monde chrétien, pour dissimuler les actes qui ont été commis. Alors, on peut pas l'annuler. Mais il faut aussi comprendre que le pardon a des limites parce que je pense à quelques amis qui ont perdu leur famille dans la Shoah. Peut-être qu'eux, ils ont voulu pardonner d'une certaine manière, passer au-delà, pas s'enfermer dans la douleur, pourquoi pas. Mais ce qui s'est passé a des conséquences qui les dépassent eux aussi, qui se font sentir sur leurs propres descendants. Et donc, ils peuvent pas pardonner pour les autres. On peut pas pardonner pour les autres. On aurait voulu croire souvent que le pardon, ça recouvre tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. La trace du mal persiste. Et moi, je suis frappé que dans les écritures juives, c'est souvent une très longue méditation sur du mal qui a été commis. Et c'est non pas comment on l'oublie, mais c'est comment on s'en sépare au sens où on va faire en sorte que ça ne se reproduise pas. C'est une question tout à fait différente. Pour terminer, puisque le pardon, c'est aussi, on peut aussi l'associer à la paix, eh bien, il faut dire, la peine n'a pas une valeur en soi si elle n'est pas accordée à la justice. Si elle fait l'impasse sur la distinction entre l'agresseur et l'agressé, si elle fait l'impasse sur les réparations nécessaires après, quand vient la paix, etc. La paix, c'est pas un en soi. La paix, comme le pardon, doit aller avec la justice. Il faut, de ce point de vue-là, marcher sur deux pieds.
Merci Paul Zelitch, merci Jean-François Boutor pour cette belle conversation. Je rappelle le titre de l'ouvrage dont nous avons parlé, « Aime et ne fais pas ce que tu veux » aux éditions La Condottiere. Merci encore à tous les deux.
Merci à vous.
Merci.
C'était Talmudique, une émission de Françoise-Anne Ménager, à la prise de son aujourd'hui Éric Boisset, à la réalisation Alexandra Malka. Vous retrouverez toutes les indications biographiques et bibliographiques de nos invités sur le site de France Culture à l'onglet Talmudique. Kol Touv, Leitraot, au revoir, bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.